Deuxième épisode aujourd'hui de notre série autour du métal et de ses rapports jamais simples avec, contre ou sans la politique. On retrouve Steph, contributrice au site entredeuxblasts.fr, que je vous conseille d'ailleurs fortement d'aller visiter, pour un deuxième volet autour de notre thème inauguré le mois dernier et dont vous pouvez bien sûr retrouver le premier numéro sur la page de Sidetracks sur transistor.fr.
Un pour l'argent, deux pour le spectacle, pour le game.
Classe, man. Top of the pop. C'est du journalisme total.
Cette semaine, nous poursuivons notre exploration des expériences politiques dans les concerts de métal. Au programme de ce deuxième volet, les concerts traversés par des enjeux de politique nationale. Contrairement au groupe de l'émission précédente, parler de politique semble être parfois délicat à aborder pour certaines musiciennes et musiciens sur scène. Une intervention du chanteur Mousse lors du concert du groupe Massisteria au Main Square Festival en 2016 en fournit un exemple. Introduisant le morceau World on Fire, que l'on peut qualifier d'engagé, le chanteur paraît presque gêné de parler politique.
Bon, on va dire que ça sera le seul morceau politique de la soirée pour nous. Et après on fait la fête, on est là pour oublier. Et une petite piqûre de rappel. Le morceau s'appelle World on Fire. Il faudrait que la politique américaine arrête de faire chier le Moyen-Orient. Go !
L'intervention du chanteur révèle une tension. Mise en opposition à la fête, la politique est implicitement qualifiée de sujet sérieux, voire même rébarbatif, qui n'aurait pas sa place sur scène. Le festival de musique est considéré comme un espace de fête où parler politique serait mal accueilli par le public. Le frontman de Massisteria semble faire une concession en présentant un seul de leurs morceaux comme étant politique et s'empresse d'annoncer qu'après, ce sera la fête pour oublier. Le rôle de la fête serait donc d'oublier tout ce qui a trait à la politique. Or, la fête peut servir des objectifs multiples et être menée de bien des façons différentes. Elle peut être déclarée par un État ou une institution à l'échelle d'un pays pour commémorer et célébrer certains événements choisis par le pouvoir. Une fête peut aussi servir l'objectif de sensibiliser et de mobiliser autour d'une cause politique en opposition avec le pouvoir en place. La fête peut être minutieusement organisée ou au contraire être spontanée. Elle peut s'articuler autour de prestataires de musique, d'entreprises sponsors et de consommatrices et consommateurs, ou bien être autogérée et autofinancée. Autrement dit, les modalités de ce que sont une fête, un festival, peuvent être très variées. En poussant le raisonnement un peu plus loin, même un festival de musique qui ne veut pas se mêler de politique est traversé par elle. Il suffit de penser qu'un concert prend généralement place dans un espace délimité et dans un temps donné, qui sont le plus souvent réglementés par l'État et ses institutions. On peut aussi penser au contrôle des sacs aux entrées, aux fouilles corporelles rapprochées ou encore, nec plus ultra technologique, aux puces RFID intégrées dans les bracelets pour contrôler les entrées et gérer les consommations. Ces mécanismes, devenus très courants ces dernières années, s'inscrivent dans un contexte politique qui a une influence directe sur les comportements acceptés et acceptables du public. Autre lieu, autre contexte, l'une des éditions du Monsters of Rock offre matière à réflexion pour saisir comment des enjeux politiques peuvent entourer l'organisation d'un concert. En 1991, ce festival annuel de hard rock et de heavy metal originaire du Royaume-Uni se déroule à Moscou. Sponsorisé par le conglomérat états-unien Time Warner, l'événement marque une date historique puisqu'il s'agit du premier festival de rock en plein air organisé en Union soviétique. Cette édition rassemble le groupe russe EST et les mastodontes occidentaux AC/DC, Metallica, Pantera et The Black Crowes. Un mois plus tôt, le pays a été marqué par le putsch de Moscou, un coup d'État raté de la part de conservateurs en désaccord avec le programme de réforme entamé dans le pays. Le rock est l'objet d'enjeux politiques entre l'Est et l'Ouest. Le style de musique est souvent désigné comme le symbole de la liberté et de la démocratie, réprimé en Union soviétique et utilisé par les États-Unis pour atteindre la jeunesse de l'Est avec son soft power. Mais la chercheuse Anna Zaitseva souligne la complexité qui entoure l'histoire du rock dans ses travaux sur la légitimation du rock en URSS dans les années 1970-1980. Elle écrit ainsi « Que n'a-t-on pas dit du rock en URSS ? Underground réprimé, en rupture avec la culture soviétique officielle, opposant au système, il aurait même en sous-main miné le régime. Mais comment concevoir alors que le rock ait pu occuper les scènes officielles, être parrainé par le Komsomol, puis par des clubs de rock, et être protégé par ses propres censeurs ? On peut être surpris de le voir servir à financer les caisses de Guns Concert, bureau de concert d'État. Faire l'objet de débats dans les grandes revues littéraires, compter des compositeurs et des écrivains de renom parmi les membres des jurys de ces festivals, et tout ceci bien avant l'avènement de la glasnost et que la presse démocratique le glorifie et le qualifie de détachement avancé de la perestroïka. Time Warner réalise un documentaire sur le festival Monsters of Rock, intitulé d'après une chanson de AC/DC. For those about to rock, we salute you, Monsters in Moscow. Pour ceux qui s'apprêtent à faire du rock, nous vous saluons, les monstres à Moscou. La narration du festival, ce qui est montré et comment, doit être analysée en gardant en tête les enjeux politiques de l'époque. Un article publié au moment du festival par le New York Times cite les représentants officiels de Time Warner qui décrivent le concert comme une célébration de la démocratie et de la liberté en Union soviétique. Au son de cloches dramatiques, le documentaire déclare en ouverture « En août 1991, en URSS, la jeunesse a défié la vieille garde. Ceux qui ont questionné l'autorité ont triomphé. Le glas a sonné pour le régime soviétique. C'est un festivalier russe lui-même qui l'annonce. Le communisme n'existe plus. » Le début du commentaire associe deux types d'images. Celle de guerre dans les tranchées, de parades militaires et de chars d'assaut attaqués par des manifestants, et les images de la foule amassée devant la scène, contenue par un cordon de 5 ou 6 rangées de militaires. Se rendre à ce festival pour écouter du rock est mis en scène comme un acte de résistance et de subversion dans ce contexte politique représenté sous tension. Les prises de vue des deux premiers sets, ceux de Pantera et de EST, sont intercalées avec des images d'altercation entre le public et les militaires. L'effet de tension produit s'intensifie pendant le morceau Bully du groupe EST, alors que la répression des festivaliers semble atteindre son point culminant. Après une intervention des organisateurs qui appellent la foule à se calmer pour éviter une annulation du concert, le groupe The Black Crowes commence en chantonnant « We just want you to have a good time ». Nous voulons juste que vous passiez un bon moment. Le ton change alors. Il s'agit désormais de montrer un peuple qui veut accéder à la liberté et au rock metal. Pendant le concert de Metallica, les images de festivaliers et même de soldats, grand sourire sur le visage et signe du diable brandi en direction de la scène, célèbrent la nouvelle ère. À des fins politiques, la musique est donc présentée comme symbole de la démocratie et de la liberté. Elle est aussi communément louée pour ses vertus unificatrices. Certains morceaux tiennent à ce titre le rôle de véritables hymnes autour de la musique métal, particulièrement efficaces en concert pour mobiliser le public. Il s'agit de rassembler autour d'une musique et d'une culture commune, d'exalter une communauté autour de la fierté d'être métalleux et métalleuse. Le morceau « We are the Metalheads » de Doropesh rend compte des modalités de construction d'une telle communauté contre celle du monde normal. Ce que nous voyons est votre vie de mensonge, notre manière de faire est authentique. Vous pensez que nous sommes des brutes, mais on déchire tout. Nous voulons juste faire du rock pour être libres. D'autres morceaux, comme Broad Brothers de Iron Maiden, jouent la carte de la fraternité entre les hommes. Ils utilisent parfois un imaginaire guerrier comme Metal Militia de Metallica ou Brothers of Metal de Manowar, pour qui les métalleux combattent avec le pouvoir et l'acier. Dans ces exemples, les hommes s'adressent à d'autres hommes, leurs frères, à l'exclusion des femmes. On retrouve aussi la thématique guerrière dans le morceau Scotland United, joué par le groupe allemand Gravedigger dans l'album Tunes of War de 1996. Il s'agit d'un concept album autour d'épisodes de l'histoire écossaise, mais Scotland United propose un refrain suffisamment général, répété tel une litanie, pour que chacun et chacune puisse y projeter sa propre signification. Le métal touche aussi à un autre type d'hymne, l'hymne national, véritable symbole d'un pays qui a pour objectif d'exalter le sentiment d'appartenance à la nation. Les musiciens de Metallica ont joué à de multiples reprises l'hymne national des États-Unis à l'occasion de compétitions sportives. On peut trouver de nombreuses reprises en version métal de différents hymnes nationaux, comme cette version de l'hymne des îles Faroé par le groupe Tyr. La musique métal peut ainsi servir des intérêts patriotiques. Il peut aussi arriver qu'un groupe interprète l'hymne national du pays où il donne une représentation, comme lors d'un concert du groupe Shining à Paris. C'est sur une scène illuminée par des projecteurs bleu-blanc-rouge que le frontman Jörgen Münkeby interprète au saxophone l'hymne de la Marseillaise. Nous sommes le 18 novembre 2015 et l'objectif est alors double. Commémorer les victimes des attentats survenus quelques jours plus tôt dans la capitale et exalter un sentiment national contre le terrorisme. La salle entonne pour sa très grande majorité les paroles de l'hymne national. À un autre moment du concert, Munkebi demande au public de faire un doigt d'honneur aux terroristes. Ce concert comportait ainsi de manière visible bien des aspects politiques, et tout d'abord par le simple fait qu'il ait eu lieu. Ni le groupe ni la salle ne l'ont annulé malgré les incertitudes ambiantes en termes de sécurité, et le public, quant à lui, a répondu massivement présent. L'utilisation de symboles républicains, les couleurs bleu-blanc-rouge, la Marseillaise, peut sembler évidente pour rendre hommage aux victimes sur le sol français et célébrer des libertés supposément à défendre, comme celle de pouvoir se rendre à un concert. Mais que représentent ces symboles? Comment questionner leur lien avec l'histoire violente, notamment coloniale, de la France? Le caractère sanglant et vengeur des paroles de la Marseillaise ne dépareille certes pas dans un concert de métal. Sauf que cette fois-ci, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un hymne d'héroïque fantasy ou de communauté métal fantasmée. La question du lieu où elles sont chantées interpelle. Il s'agit d'une salle de concert parisienne, lieu qui rappelle forcément une autre salle de concert, celle du Bataclan, réellement ensanglantée quelques jours plus tôt. En cet instant, à ce concert, le politique devient évident parce qu'il se manifeste sous les symboles habituels de la politique nationale républicaine. Un mélange des genres que l'on n'aurait pas forcément attendu dans un concert de black jazz. Cette deuxième partie d'émission touche à sa fin. Je vous laisse en compagnie du groupe français Arcane et d'un extrait de leur morceau Hayati. Et à la fois prochaine pour le troisième et dernier volet de ce cycle métal, concert et politique.